nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jacques Glowinski, merci de nous accueillir dans votre bureau ici au Collège de France. Collège de France où vous occupiez la chaire de neuropharmacologie, il me semble,
oui.
Jusqu'en 2006.
Oui.
Collège de France que vous avez administré pendant 6 ans. Aujourd'hui, vous avez encore votre bureau parce que vous vous occupez justement de la réhabilitation
des locaux du
Collège de France. Vous nous accueillez aujourd'hui ici pour parler des événements de mai 68 au Collège de France. La Sorbonne est à côté, on sait ce qui s'est passé à la Sorbonne. Que s'est-il passé ici au Collège de France ?
Eh bien, par rapport à ce qui se passait à la Sorbonne, le Collège de France était un endroit relativement calme. Le Collège de France a toujours été un endroit assez calme. Il l'est moins maintenant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes qui viennent suivre les cours, parce qu'il y a eu des transformations des locaux et que les enseignements sont suivis par des plus grands nombres de personnes qu'auparavant. Mais comme maintenant, il y avait de la recherche au Collège de France. Le Collège de France a à peu près 800-900 personnes. Elles ne sont pas toutes au Collège de France d'ailleurs. Et c'était un endroit relativement calme. Et en fait, les jeunes chercheurs qui travaillaient au Collège de France, qui étaient localisés dans des chaires différentes, et que moi je connaissais à l'époque, puisque je suis revenu des États-Unis en 66, et que j'ai commencé à travailler au collège en fin 65, début 66, eh bien je me trouvais dans ce bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment de biologie, et dans des locaux qui dépendaient de la chaire de M. Fessard, Alfred Fessard, qui était un professeur de neurophysiologie au Collège de France, et qui travaillait d'ailleurs à Roland-Garros, dans la station de Marais, à côté de Roland-Garros. Et moi, j'avais un petit laboratoire que j'avais créé avec l'aide des Fessards et de François Morel, qui était professeur au Collège de France. Et nous étions 6 ou 7 personnes dans 2 pièces qui se trouvaient au premier étage de ce bâtiment. Mais j'allais de temps en temps dans le bureau de M. Fessard, qui se trouvait au coin du bâtiment et bureau qui donne sur la Sorbonne, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. Et en fait... nous voyons beaucoup de mouvements, de manifestations. Bien sûr, la rue des Écoles et la rue Saint-Jacques sont des rues toujours animées. Dès qu'il y a une manifestation, les gens empruntent très souvent la rue Saint-Jacques. Et on savait qu'il y avait des barricades de rue Gay-Lussac. Il y avait tous les jours des réunions qui se passaient à la Sorbonne, dans les amphithéâtres. Nous y allions de temps en temps pour voir comment ça se passait. Il y avait des inscriptions partout. Il y avait ce qu'on appelait les catanguais, c'est-à-dire des gens qui lançaient des bombes lacrymogènes à partir de la fenêtre qui est en face. Et nous, notre souci, c'était qu'on n'envahisse pas le Collège de France.
Même si vous étiez favorable aux événements.
On était favorable aux événements, on était favorable à ce qu'on veut dire, à une sorte de changement de comportement dans l'université, finalement, des relations entre les gens. Et nous étions effectivement contre une certaine hiérarchie, d'autant plus moi qui avais été formé aux États-Unis, ou même avant qui était à l'Institut Pasteur, qui était une structure très très ouverte pour la recherche, où il y avait une ambiance assez extraordinaire pour faire de la recherche. Donc effectivement, tout ce qui pouvait être un mouvement qui allait vers une ouverture plus grande, disons l'établissement de nouvelles relations entre les jeunes chercheurs, les techniciens, les ingénieurs, et puis les personnes établies comme les professeurs, eh bien nous y étions favorables. Mais on ne voulait absolument pas qu'on saccage l'outil de travail. Et en fait, avec un certain nombre de jeunes chercheurs du Collège de France, dont je me souviens d'André Marquet, mais il y en avait d'autres, eh bien nous étions organisés. Et en fait, on discutait beaucoup, comme tout le monde. Mais on essayait d'éviter que les gens rentrent en force dans le Collège de France.
Ce que vous m'avez précisé en préparant cet enregistrement, c'est justement la particularité du Collège de France où déjà l'enseignement était moderne, ce qui n'était pas forcément le cas à l'université. Il y avait déjà un décalage, on va dire.
Si vous voulez, à l'époque, on considérait que certains enseignements qui auraient dû se tenir à l'université ne l'étaient pas. C'était par exemple les enseignements dans le domaine de la biologie moderne, la biologie moléculaire, étaient faits à Pasteur. On ne les voyait pas encore dans l'université. Ma propre discipline, il n'y avait pour ainsi dire pas de neuropharmacologie moderne en France. Donc c'est vrai qu'on sait que le Collège de France a toujours été à la pointe pour lancer de nouvelles disciplines, puisqu'il a la chance finalement d'ouvrir des chaires dans n'importe quel domaine, que ce soit. Donc il doit être à l'avant-garde des disciplines nouvelles et, si vous voulez, préparer en quelque sorte l'avenir. Alors, les universités, maintenant, le font de plus en plus, c'est évident, ça a changé. Mais c'est vrai que ce mouvement a changé les rapports qui existaient. Et d'ailleurs, quand vous allez dans d'autres pays, comme en Allemagne, par exemple, même peut-être pas en Angleterre, ben, vous voyez qu'il y a une certaine hiérarchie qui a persisté, qui a perduré. Bien, vous voyez qu'en France, c'est plus tout à fait le cas, quand même. Donc, il y a une évolution considérable. Donc, ce qu'on peut redire sur le Collège de France, on a une position cruciale. Nous étions au centre, autour, il se passait des tas de choses. À l'intérieur, il n'y avait pas de manifestation, il ne se passait rien, si ce n'est qu'il y avait des discussions, il y avait des animations, mais qu'on s'était organisé pour qu'effectivement les gens ne franchissent pas les grilles que vous voyez et qu'ils ne rentrent pas en force, par exemple, dans le bureau de l'administrateur qui s'appelait Étienne Boff, et qui était une personne d'une génération différente de la nôtre, obligatoirement, et qui, en réalité, n'avait pas obligatoirement fait la conversion qui pouvait s'imposer à cette époque et que vous retrouviez avec des personnalités plus jeunes, telles que Monod ou Jacob ou François Gros, qui sont devenus professeurs au Collège de France par la suite.
Et justement, vous parlez de ces grandes personnalités. Toujours en préparant cette émission, vous m'expliquez que Jacques Monod faisait partie des personnes qui étaient sur les barricades.
C'est connu, il y a même des photos légendaires. Monod était à la pointe du combat, il était... Et je me souviens très très bien qu'il était Ruguet-Lussac. Et moi, j'ai mieux connu Jacques Monod un petit peu plus tard, c'était en 71-72, puisque au moment où M. Fessard est, si vous voulez, malheureusement disparu, comme j'étais hébergé ou accueilli dans la chaire d'Alfred Fessard, il se posait pour moi un problème où j'allais aller travailler. Et c'est à ce moment-là que Jacques Monod a pris la décision, que je trouve une décision très généreuse, de m'accueillir dans son laboratoire. Il avait lui-même des locaux ici au Collège de France, ici, à cet étage. C'était la chaire de Jacques Monod. Et en fait, il a accueilli deux équipes, la mienne et celle d'une dame qui faisait de l'endocrinologie, qui s'appelle Madame Dixie Vidal. Et à ce moment-là, j'ai connu beaucoup plus Jacques Monod. Et la première chose qu'il m'a dit, écoutez, je vous donne quelques crédits, mais repeignez-moi ce laboratoire, c'est dégoûtant, essayez de moderniser tout ça. Ça m'a beaucoup influencé.
Justement, vous évoquez les années 70. Quelles ont été les suites de mai 68? Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers après mai 68 ici au Collège de France? Est-ce qu'il y a eu un impact particulier?
En fait, il y a eu toute une évolution qui est liée premièrement à M. Horot, qui était un très grand chimiste, qui avait un très grand laboratoire de chimie au Collège de France ici à côté. Il a créé une cafétéria sur le toit du bâtiment que l'on voit où il y a la rotonde. En haut, il a créé une cafétéria.
Ça semble anodin et pourtant ce n'est pas comme
ça. Ça a été le début de la vie sociale au Collège de France où les gens se rencontraient. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et puis en plus de tout, il était d'un contact très très facile et en fait, il a commencé à créer en quelque sorte une vie un peu conviviale. Bah, peut-être qu'elle était conviviale avant, mais moi je ne l'ai pas senti comme ça quand je suis revenu des États-Unis. Donc je ne trouvais pas que c'était un endroit particulièrement chaleureux. Mais avec M. Horot, les choses ont commencé à changer. Puis ensuite, M. Laporte a été nommé professeur au Collège de France. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une personne qui a vraiment... D'abord, c'est un grand scientifique. Deuxièmement, c'est une personne qui a le sens de l'État, qui a le sens de la collectivité. Et il a été nommé très rapidement administrateur. Il était ami avec François Morel, qui était aussi une personne très moderne au Collège de France, qui avait travaillé à Saclay, qui était un homme qui avait une vision pour l'avenir. Donc, vous voyez, des personnalités comme ça, Monod d'un côté, Morel de l'autre, plus les littéraires que je ne connaissais pas personnellement, mais il y en avait beaucoup aussi. Foucault, Lévi-Strauss, etc., Duby, enfin, voilà, il y avait quand même des personnalités étonnantes, et M. Laporte, progressivement, a grandi le Collège de France. Il a récupéré des locaux que nous avions eu d'Ulm, mais qui avaient été gelés pendant un certain temps. C'est la première chose. Deuxièmement, le Polytechnique est parti, et donc on a récupéré une partie des locaux qui sont maintenant le ministère de la Recherche, et il y a une partie des locaux qui, appartient au Collège de France. Et M. Laporte a créé le premier conseil d'établissement, où les personnes, les chercheurs, étaient représentés dans une instance où on discute de la vie au Collège de France, et les personnes élues peuvent donner leur avis, sont tenues au courant. Il a introduit de la transparence dans cette institution. Et en plus tout, il a créé l'un des premiers instituts du Collège de France, pas le premier, mais en ce qui concerne la biologie, il a créé l'Institut de biologie, c'est-à-dire où toutes les équipes qui travaillent sont rassemblées dans un institut. Bon, c'est toujours le même bâtiment, mais des liens interviennent entre les différentes équipes. Il a décloisonné l'institution.
En vous écoutant, on a l'impression que, en même temps que le Collège de France s'est étendu, il a gagné en légitimité.
C'est possible. En plus de tout, M. Laporte est une personne très très appréciée pour tous ses collègues, et il a créé un climat tout à fait favorable au développement de l'institution. Et en créant, si vous voulez, à la suite de M. Auro, vous voyez, par étapes successives, l'institution s'est développée, elle s'est ouverte vers l'extérieur. Et à la suite de M. Laporte, c'est M. Miquel, André Miquel, c'est un arabisant qui a été nommé administrateur. Et M. Laporte souhaitait que j'intervienne dans la vie de la maison. Et j'ai été nommé à l'époque vice-président de l'Assemblée des professeurs. C'était dans les années 91-92. À ce moment-là, M. André Miquel a pu discuter avec M. Biasini, qui était le responsable des grands travaux du président de la République, M. Mitterrand. Et on a pu, si vous voulez, faire que la réhabilitation du Collège de France devienne un des grands projets du président de la République. Et donc ça a commencé en 1991-1992. J'ai été nommé par mes collègues responsable de ce projet de rénovation, et je le suis toujours, puisque M. Corvol, qui est maintenant administrateur, m'a donné une mission, c'est de poursuivre le projet de rénovation qui dure très longtemps, comme vous pouvez le voir. Bon, mais enfin, on approche de la fin de ce projet. Après, M. Miquel a été administrateur 6 ans. Ensuite, M. Dagron, Gilbert Dagron, un spécialiste de Byzance.
Tous sont à l'Institut de France, pour le préciser.
Voilà, exactement. Il a été administrateur 3 ans. C'est lui qui a ouvert les nouveaux locaux d'enseignement en 1998, qui est ouverture par M. Chirac. Et je crois que le ministre de l'éducation nationale ou de la recherche à l'époque était M. Allègre, et l'histoire continue. Et moi-même, j'étais administrateur, et c'est pas le moment de dire ce que j'ai fait en tant qu'administrateur.
Juste pour terminer cette émission, si on revient un peu en arrière, mais à l'époque, vous étiez encore aux États-Unis. Quand vous êtes arrivé, vous avez donc travaillé aux États-Unis.
Oui.
Vous êtes revenu. Je suppose qu'il devait y avoir un grand décalage entre la recherche et les universités aux États-Unis, et puis quand vous êtes arrivé ici au Collège de France, même si le système universitaire n'a rien à voir avec le système du Collège de France, mais dans le même climat de recherche.
Vous avez tout à fait raison. En fait, j'avais connu un grand centre de recherche foisonnant, extraordinaire, etc. C'était l'Institut Pasteur. Alors évidemment, j'avais travaillé dans un laboratoire, c'était qu'on appelait le laboratoire d'isotopes radioactifs, qui était au voisinage du laboratoire de Jacques Monod, où il y avait une atmosphère extraordinaire. Bon. Mais je n'étais pas dans le laboratoire de Jacques Monod. Et en fait, c'est vrai que j'ai connu aux États-Unis un milieu extraordinairement favorable à la recherche, par la qualité des gens qui étaient, surtout par les rapports qu'il y avait entre les gens, par les conditions qui étaient offertes aux chercheurs, et par cette espèce de capacité que... Je ne peux pas dire qu'uniquement les Américains, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers, c'est que rien n'est impossible. Et je me souviens de mon patron Axelrod, qui a eu le prix Nobel en 72 après, il me disait « Stop to argue, just let's do it ». Ça veut dire Ne discutez pas pendant des heures, vous avez une idée, ben vous la mettez. Bon, demain matin, vous faites l'expérience et un point, c'est tout. Donc, c'est une manière de voir les choses complètement différente. Alors, c'est vrai que, revenant des États-Unis, accueilli encore par des personnes qui ont joué un rôle déterminant dans mon existence scientifique et même au-delà, M. Fessard et Mme Fessard, ici au Collège de France, eh bien, je me suis retrouvé tout seul dans une pièce, avec une bourse américaine pour acheter mon matériel. Et la première chose que j'ai eue comme difficulté administrative, c'est que les Français voulaient faire payer la TVA sur ce matériel américain payé sur des fonds américains. Il m'a fallu bagarrer pendant 6 mois pour ne pas payer une taxe sur ce matériel. Donc en fait, on a monté le laboratoire et c'est vrai que c'était très cloisonné. Je ne parlais pas beaucoup avec les gens ou les gens qui étaient à côté ne parlaient pas beaucoup. C'était pas du tout l'idée que je me faisais d'un grand centre de recherche ouvert. Etc. Puis, progressivement, il est devenu ou il le devient. Ça a énormément changé. Mais justement, en s'inspirant de ce que chacun a pu apporter de son expérience et en s'inspirant finalement à la fois de la spécificité du Collège de France, de ce qu'il a été dans l'histoire de la recherche dans ce pays, de l'aura qu'il a au niveau international, et puis en s'inspirant effectivement de quand même d'une évolution qui est indispensable pour faire de la recherche de haut niveau et pour finalement favoriser le développement de la recherche comme on le voit dans d'autres pays. Et naturellement, on pense aux États-Unis, mais l'Angleterre qui réussit si bien, ou la Suède, les pays nordiques.
Bien, je vous remercie, Jacques Glowinski, de nous avoir reçus dans votre bureau. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir, peut-être pour parler de l'histoire de la neuropharmacologie.
Avec plaisir, avec plaisir.
Et bien, merci beaucoup, à plus tard. Au revoir.